RCF.
Bonjour, amis auditeurs, auditrices, pour notre émission Le Berriste raconte, avec Agora Défense, consacrée à la vie militaire dans le Cher et le Berry. Nous retrouvons notre ami Michel Delagarde. Bonjour Michel.
Bonjour Bernard.
Alors, auteur de cette remarquable exposition consacrée à la participation des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, avec un titre qui claque au vent, La bannière étoilée flotte au cœur de la France. Alors Michel, pourquoi ce titre tout d'abord ?
Ce titre d'abord, il n'est pas de moi, il est de du président d'Agora Défense, Yves de Bonneau. Pourquoi ? Eh bien, la bannière étoilée, chacun sait que c'est le nom classique de drapeau américain, et au cœur de la France, parce que il y a eu un peu moins de 200 000 Américains, 200 000 Samis, dans un triangle, très globalement, Tours, Nevers, Château. Donc, au cœur de la France, Bourges étant le cœur de ce triangle.
Alors, deux personnages illustrent le début de l'exposition, Pershing et Lafayette. Pourquoi ? Alors, Pershing, tout d'abord, le général Pershing.
Le général Pershing, je l'ai rappelé dans une précédente émission, était un descendant d'un immigré alsacien, Frédéric Pouertchin. C'est un personnage central qui n'était pas un homme facile à vivre, mais ça se comprend par certains détails tristes de sa vie.
Je crois qu'il avait perdu son épouse et ses enfants, c'est bien ça.
Il a perdu dans un incendie pendant qu'il était au combat à la frontière mexicaine. Dans un incendie, sont morts ses trois filles et son épouse. Il est né resté que son fils. Donc c'est effectivement l'homme qui allait quelques mois plus tard être nommé à la tête des forces américaines en France, qu'on a appelé le corps expéditionnaire américain. C'était un personnage très strict. Même avant ce drame, quand il était instructeur à West Point, puisqu'il était lui-même ancien de West Point, et qu'à sa sortie, le général Merritt, qui commandait l'école, avait mis John à des fortes capacités de commandement, il n'avait pas tort. C'était un homme très strict. Et quand il est donc revenu à West Point comme instructeur, les cadets l'avaient surnommé Negro Jack, qui a été transformé, plus politiquement correct, en Black Jack.
Il parlait français, je crois, aussi.
Alors, il se trouve que parmi ses nombreuses missions, il est venu en France quelques mois au moment de la crise des Balkans, comme observateur, et qu'il en a profité pour apprendre le français. C'est un homme qui aimait apprendre. Il a appris l'art, il est licencié en art, il a appris le droit, il a une licence de droit. C'est un homme curieux de tout et aux multiples talents.
Alors, un autre personnage que nous connaissons tous, Lafayette. Alors
Lafayette, eh bien Lafayette, c'est symbolique de l'indépendance américaine.
Bien évidemment.
Et d'où le nom de l'escadrille Lafayette que nous avons évoqué lors de la précédente émission. Et le 4 juillet 1917, Pershing, qui venait d'arriver en France, a été au cimetière de Picpus à Paris, s'incliner devant la tombe du général Lafayette.
Lafayette, nous voilà.
Lafayette, nous voilà.
Notre question concerne pourquoi une telle concentration de camps, d'hôpitaux dans notre région ?
Eh bien, pour des raisons essentiellement géographiques. Tout d'abord, notre région était loin du front, donc à l'abri des avions, des obus. On pouvait donc installer de la logistique de l'arrière en étant tranquille de ce côté-là, même si les Allemands avançaient un peu. Et puis d'autre part, il n'y avait pas grand-chose, il y avait de la place, alors qu'au nord de Paris, c'était surencombré par les liaisons avec le front. Deuxième raison, c'est une raison de réseau ferré. En effet, les Américains débarquaient à Brest, hommes essentiellement, à Saint-Nazaire, hommes et matériel, et à Bordeaux-Bassins, essentiellement matériel. Le poste arrière du front américain, de la première armée américaine, c'était Is-sur-Til, qui est près de Dijon. Pour aller des trois ports que je viens de citer à Is-sur-Til, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de communication à l'époque utilisable pour transporter des millions de tonnes de matériel, d'obus, etc. C'est le train. Donc, les lignes de train se rejoignent à Bourges, vont sur Nevers, et ensuite sur Dijon et Is-sur-Til. Et tout le long de ces lignes de train, eh bien, c'est là qu'on installe les ateliers de réparation, que l'on installe les centres de stockage, etc. Donc voilà pourquoi il y avait au cœur de la France toute cette accumulation de soldats américains et de bâtiments et d'installations du service.
Alors vous citez. Alors vous citez un certain nombre de villes, hein, Romorantin, Gièvre, Issoudun, Montières-Chaumes, le camp de Beauvoir de Marmagne, bien évidemment, Bourges, Mars-sur-Allier, c'est considérable. J'ai été surpris par le nombre de lits d'hôpitaux, par exemple, à Mars-sur-Allier.
Oui, mais il faut bien voir, Mars-sur-Allier est en ligne directe avec Nevers. Les blessés qui ne peuvent pas être soignés dans les hôpitaux proches du front parce que c'est trop grave, eh bien, ils redescendent et on les redescend en particulier sur Meves-sur-Loire et Mars-sur-Allier dans la Nièvre qui va être un énorme centre hospitalier.
Ah, très bien. Américain. Alors, cette logistique américaine que nous connaissons, cette puissance, est-ce qu'elle permet, en 1917, 1918, une réelle efficacité dans les combats des soldats de l'armée américaine? En clair, est-ce que tout ce déploiement de matériel, de force, va aider le soldat américain?
Oui, je dirais oui et non. D'abord, le temps de s'installer. Ça n'a réellement commencé à fonctionner qu'en 1918. D'ailleurs, en 1917, il y avait fort peu d'Américains présents. La présence était relativement symbolique.
Tout à fait.
Ça n'est la vraie entrée en guerre des Américains à nos côtés. Elle date du mois d'avril 1918. Bon. Mais si vous prenez un centre comme Gièvre,
oui,
où il y avait le stockage de l'alimentation de toute l'armée américaine, ce qui, fin 1918, enfin au moment de l'armistice, représentait 2 millions d'hommes.
C'est énorme.
C'est gigantesque. Bon, il fallait les nourrir et l'essentiel du stockage était à l'arrière, était à Gièvre, et il y avait là la deuxième usine frigorifique au monde après celle de Chicago, qui avait été construite en quelques mois. Donc, il y a effectivement un soutien qui a été apporté. Certes, la logistique américaine était quand même moins rodée et n'a pas eu le temps de se roder vraiment, ce qui a posé quelques problèmes en 1918 au moment de l'offensive Meuse-Argonne. C'est incontestable, mais il y avait tout pour alimenter les soldats en munitions, pour réparer le matériel à Beauvoir, les munitions, il y en avait à Foissy. Il y avait tout ce qu'il fallait pour soutenir les forces américaines.
Alors, la guerre se termine en novembre 1918. Les troupes américaines restent-elles en France? Et que deviennent toutes ces puissantes infrastructures?
Alors, aux grandes âmes des Samises, de mes amis soldats américains, ils sont restés en France. Il a fallu leur expliquer, ils comprenaient mal pourquoi la guerre étant finie, on ne rentrait pas au pays. Parce que l'armistice, c'est pas la paix.
Tout à fait.
Donc, ils sont restés en France jusqu'à, globalement, juillet 1919. Ça, c'est les hommes. Bon, à part un certain nombre qui ont été à Koblenz, dans la région de Koblenz, en occupation en Allemagne. En ce qui concerne les installations, un certain nombre n'avaient plus beaucoup d'utilité. Je pense à Foissy, par exemple, le stockage de munitions. Bon, il a fallu dégager, on a dégagé les munitions, ça n'avait plus d'intérêt. Par contre, le centre de Beauvoir a tourné à plein parce qu'il fallait remettre en état le matériel avant de le renvoyer aux États-Unis. Les Américains avaient acheté toute leur artillerie à la France, ne l'oublions pas. Donc ils ont remporté ça aux États-Unis, ben, il fallait le reconditionner, il fallait le réparer, le remettre dans des caisses, etc., pour le faire repartir. Donc, un centre comme Beauvoir, lui, a travaillé au sens fort du terme jusqu'en 1919.
Merci Michel pour cet éclairage passionnant concernant les troupes américaines dans notre région pendant ce premier conflit mondial. Nous pouvons maintenant que conseiller à vous, auditeurs, auditrices, la visite de cette exposition qui, normalement, devrait passer dans un certain nombre de communes du département du Cher. Je rappelle que c'est un ensemble d'actions qui était labellisé par l'émission en charge des commémorations du centenaire en France et aux États-Unis, avec la participation du conseil départemental du Cher, de l'ONAC et aussi d'Agora Défense. Merci à vous et bonne semaine à l'écoute de RCF.